certainement l'une des deux grandes collections de livres qui ont été accumulées au XXe siècle. La première, c'est la Morgan Library à New York, et la deuxième, c'est la collection de Martin Bodmer.
L'homme était discret, et ce joyau, qui était un témoignage de notre temps, restait au fond, si je puis dire, un peu réservé à ceux qui le méritaient.
Un projet comme ça, c'est un peu fou en même temps. Réunir tous les chefs-d'œuvre de l'humanité, tous siècles millénaires confondus, ils se doutaient bien que c'était pas le temps d'une vie.
C'est la plus belle collection d'Homère, qui sont essentiellement des manuscrits. C'est la deuxième collection de Goethe au monde, après celle de Weimar. C'est une des plus grandes collections de Shakespeare. C'est certainement la plus belle bibliothèque de Dante en dehors d'Italie. C'est une bibliothèque très exhaustive, la bibliothèque de Martin Bodmer.
Martin Bodmer était d'abord quelqu'un qui travaillait. J'ai vu les tableaux qu'il se constituait à l'époque, donc il réfléchissait par période, par ère géographique, quelles sont les grandes figures, les grands réformateurs religieux que l'on a au 5e siècle avant Jésus-Christ, quels sont les grands savants, etc. Si on prend la période grecque, quelles sont les grandes figures de la philosophie, les grandes figures de la poésie, de la science, etc. Et il se constituait ainsi des tableaux.
On ne devient pas collectionneur, on l'est. Et c'est une maladie incurable, mais pas héréditaire. Monter une collection de manuscrits comparable à celle qu'a fait Martin Bodmer aujourd'hui, je pense que c'est matériellement impossible, même si on avait tous les moyens du monde, parce qu'on ne les trouve plus.
Martin Bodmer, le fou des livres. Élise Gruau, Anna Smuk.
Peut-être juste vous montrer le bureau de Martin Bodmer.
Jacques Berchtold, actuel directeur de la Fondation Martin Bodmer.
Voilà, nous nous trouvons ici dans ce qui était le bureau de Martin Bodmer, donc le fondateur. Vous voyez qu'il transportait un tout petit peu l'esprit de Zurich avec lui, puisque nous avons deux grands portraits au mur. Johann Jakob Bodmer, qui est à l'origine du mouvement avec Breitinger, le peintre Füssli, Lafater et Salomon Gessner, qui est à l'origine de ce qu'on a appelé les Lumières zurichoises, et d'autre part, le grand maître à penser, celui qui a donné à Martin Bodmer l'idée de la Weltliteratur, c'est-à-dire Goethe, qui lui-même cumulait la connaissance de la littérature antique, de la tradition chrétienne, de la littérature de la Renaissance italienne, le monde anglais de Shakespeare et bien sûr la littérature française. Et ce Goethe qui a invité la poésie allemande à aller regarder du côté de l'Asie et du monde perse et du monde arabe également.
Martin Bodmer a consacré sa vie à un projet fou, créer un édifice de la littérature universelle en rassemblant les manuscrits et documents originaux des textes les plus importants de la culture mondiale. Des premiers signes inscrits dans la matière jusqu'aux manuscrits du XXe siècle révolu, ce sont 150 000 documents qui témoignent du grand chemin de l'écriture. Collectionnés pendant 50 ans, ils sont aujourd'hui conservés dans un musée près de Genève, dans une sorte de coffre à demi enterré dans le flanc d'une colline dominant le Léman, dans la commune de Cologny, où Martin Bodmer avait élu domicile pendant la Seconde Guerre mondiale. Un coffre, mais que le visiteur peut pénétrer. Un collectionneur mythique, un fou des livres, du titre de ce conte chinois des Notes de l'étrange de Liao Zhai, dont il détenait l'unique manuscrit. De son vivant, Martin Bodmer a réservé sa bibliothèque à un cercle confidentiel. C'est l'œuvre de la fondation qui porte son nom d'avoir amorcé la révolution vers l'exposition au public. Dans les livres, la culture s'incarne. Ces livres à voir ont des histoires à écouter. C'est maintenant, des hauteurs de Genève, dans l'antre du trésor, Martin Bodmer ou la mémoire retrouvée, Martin Bodmer, le fou des livres.
Alors, nous avons un environnement de livres. C'est donc un bureau exceptionnel puisque, vous le voyez, Martin Bodmer pouvait travailler avec la vue sur des jardins, sur le lac Léman, et de l'autre côté, il pouvait apercevoir ce qui était le lieu du CICR, le siège de la Croix-Rouge, dont il était le vice-président. Il a été en particulier très investi dans la cause de la vie intellectuelle des prisonniers de guerre, c'est-à-dire que toute sa vie, il a lutté pour que les prisonniers de guerre puissent avoir un droit à la culture, à des lectures, à des livres et à des instruments d'écriture également.
Au siège du Comité international de la Croix-Rouge à Genève, rencontre avec Daniel Palmieri, historien au CICR.
Martin Bonnemer est un Zurichois d'origine. Et il se trouve que dans la période à partir des années 1928, le président du CICR est également un Zurichois. Donc il y a déjà une proximité géographique. Ensuite, Martin Bonnemer appartient à l'élite zurichoise, c'est-à-dire fait partie des grandes familles bourgeoises de la ville de Zurich. La même chose pour Max Huber, qui est le président à l'époque du CICR. Donc là, également, il y a une proximité sociale qui explique peut-être la venue de Martin Bonnemer à Genève. Ensuite, visiblement, Martin Bonnemer et Max Huber se connaissent depuis une quinzaine d'années, à partir du début des années 20. Et malgré quand même une différence d'âge assez importante, puisque Max Huber est de 25 ans l'aîné de Martin Bonnemer, les deux se fréquentent dans des réunions, dans des rencontres. Visiblement, ils ont la même adoration pour un poète et écrivain suisse qui s'appelle Konrad Ferdinand Meyer. Donc les deux l'apprécient énormément. Il faut savoir également que Martin Bonnemer, la mère de Martin Bonnemer, tenait un salon littéraire. Et donc, peut-être que Max Huber a eu l'occasion de rencontrer la mère de Martin Bonnemer, voir le tout jeune Martin Bonnemer. Pour l'anecdote également, il fréquente la même confrérie, c'est-à-dire c'est une confrérie très, très particulière qui date du début du XIVe siècle, qui s'appelle la confrérie des porteurs de la plaquette de l'escargot. Donc les deux se retrouvent depuis les années 1937. Max Huber est un petit peu le président de cette confrérie qui est très élitiste, puisqu'il y a une soixantaine de membres uniquement, et qui est surtout réservée vraiment à l'élite bourgeoise zurichoise. Et Martin Bonnemer, à partir de 1937, est membre de cette confrérie-là. Donc il y a également une proximité culturelle, voire affective, entre les deux hommes. Mais à partir du déclenchement de la guerre, Martin Bonnemer va offrir ses services au CICR, tout simplement parce qu'il n'est pas mobilisable. Il a déjà une quarantaine d'années, donc il ne peut pas être mobilisé avec l'armée active, donc il peut appartenir uniquement à un corps de réserve. Et puis son ambition, c'est de faire quelque chose. Martin Bonnemer est un rentier, il a pu mettre à bien toutes ses passions, créer sa bibliothèque, avoir des activités culturelles, notamment avec le journal Corona. Mais il lui faut quelque chose d'un petit peu plus tangible. Donc l'idée de venir travailler pour le CICR apparaît à ce moment-là. Et donc je pense que c'est notamment grâce à son réseau d'interlocuteurs ou de connaissances qu'il a accès à des décideurs, notamment à tous les grands patrons d'entreprises ou d'industrie en Suisse, qui permettent que les collectes que le CICR va organiser pendant la Deuxième Guerre mondiale en Suisse soient un réel succès.
Archives sonores du CICR. Martin Bonnemer, président par intérim de la commission du centenaire, inaugure le bateau Henri Dunant au chantier naval d'Ouchy à Lausanne le 17 février 1963.
Monsieur Bonnemer, président par intérim de la commission du centenaire, va s'adresser à vous.
C'est au nom de la commission du centenaire de la Croix-Rouge en Suisse que j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue. Ce 17 février est le véritable jour de la fondation de la Croix-Rouge. Nous venons de le fêter par la poésie, par la musique, fort bien appropriée aux circonstances, et enfin par la sympathique cérémonie du baptême lui-même. Le bateau de la Compagnie Générale n'est pas le premier à porter le nom d'Henri Dunant. Son nom a sillonné l'Atlantique vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La tâche de ce bateau-là sera plus gaie. Il voguera pour l'agrément des amateurs de notre lac et de ses rivages aux coteaux admirables. Le tour du Léman a été à tout temps et sera toujours un délice. Combien l'avais-je personnellement apprécié lors de mes débuts à Genève en 1940, lorsqu'il n'y avait que ce seul moyen de visiter la contrée. J'avais fait remarquer à mon ami et vénéré président Max Huber que c'était le plus beau lac de Suisse. Comment ? Me répondit Max Huber. Je vous dis, en bon zurichois que je suis, que c'est le plus beau lac du monde. Ce n'est pas par hasard que la première peinture réaliste d'un paysage en Europe soit celle du Léman, sur la fameuse pêche miraculeuse de Konrad Witz. Et de ce même paysage a rayonné un siècle après comme un fanal Calvin. Deux siècles plus tard, ce sont les idées de Rousseau qui ont bouleversé le monde, et enfin, c'est le message de Dunant qui, de là, a transformé l'humanité en lui apportant une nouvelle conception de l'ennemi souffrant. Certes, nous n'allons pas prétendre que ces eaux scintillantes, caressées par les vents et qui reflètent la clarté du ciel, portent la trace du génie humain. Cependant, le rapport entre un paysage et ses habitants reste indéfinissable. Ce rapport n'existe peut-être qu'en nous-mêmes, mais il existe. Aujourd'hui, nous sommes profondément reconnaissants aux responsables de la Compagnie Générale de Navigation d'avoir non seulement compris cela, mais également d'avoir bien voulu fixer la mémoire d'Henri Dunant de manière si réelle et si vivante.
En 1940, il déménage à Genève et ensuite sa bibliothèque va l'accompagner. Donc à partir du 6 février 1940, Martin Bodmer est membre du comité. Donc à ce moment-là, il a des fonctions dirigeantes et il va pouvoir lancer des initiatives et gérer des services.
Comment les secours intellectuels se sont développés sous l'impulsion de Martin Bodmer ?
Alors, l'idée d'un secours intellectuel aux prisonniers de guerre, elle n'est pas de la Deuxième Guerre mondiale. Elle naît directement des premiers grands conflits de la fin du XIXe siècle, à commencer par la guerre franco-prussienne de 1870-71. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'un captif a des besoins matériels, mais également des besoins immatériels, intangibles. Et notamment la notion de pouvoir correspondre avec ses proches, donner des informations à recevoir. Et le CICR va à ce moment-là mettre sur pied le début de son activité qui continue encore aujourd'hui, qui s'appelle le rétablissement des liens familiaux. C'est quelque chose qui se cristallise encore plus pendant le premier conflit mondial où la durée de captivité est très longue. C'est à ce moment-là qu'apparaît la fameuse maladie des barbelés, la neurasthénie du prisonnier. Ce qui va motiver le CICR à avoir une part plus importante pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est que la Convention de Genève de 1929 spécifie clairement dans deux articles à la fois le besoin intellectuel des prisonniers, mais également le fait qu'ils doivent pouvoir recevoir des livres dans les camps. Donc le CICR va être impliqué de deux manières, d'abord en constituant lui-même une bibliothèque et surtout en coordonnant les efforts de différentes associations qui sont déjà présentes dans ce domaine-là d'activité. Et Martin Bodmer va jouer un rôle important dans cette coordination et ça va permettre comme on dirait aujourd'hui, de rationaliser et d'optimaliser l'activité dans ce domaine-là pour éviter notamment que des associations envoient des doublons dans les mêmes camps ou ne favorisent qu'un camp au détriment des autres.
Et est-ce qu'on a idée du volume de livres que ça représente, les secours intellectuels pendant la guerre ?
Alors, on a des chiffres qui disent que le CICR, via les organisations qui ont participé avec lui, a envoyé environ 1,5 million d'ouvrages par envoi de 5 kilos. Donc, on faisait des blocs de livres et puis on les envoyait dans les camps. Et les camps vont se constituer de véritables bibliothèques, à tel point que ces livres vont être préservés alors qu'il va y avoir des destructions de bibliothèques réelles dans les villes en guerre. Et donc, à partir de 1944, le CICR va demander aux autorités captrices absolument de garder ces bibliothèques-là, de ne pas les détruire, parce que tout simplement, c'est un patrimoine qui peut revenir à la vie civile plus tard. Donc, vous voyez, il y a une inversion du propos qui est assez intéressante. Et je pense que Martin Bodmer, étant un grand bibliophile, c'est certainement à son impulsion, même si on n'a pas les preuves concrètes, mais c'est dans son impulsion de dire « il faut garder cette trace-là ». Et comme elle se trouve dans des camps, Il faut la garder après la guerre pour qu'on puisse la redonner, la redistribuer aux pays qui nous ont donné ces livres-là.
Conrad Bodmer, le troisième fils de Martin Bodmer. Bon, on ne peut pas le nier, c'est une famille aisée, n'est-ce pas? Et alors, sa passion, c'était de collectionner. Et il a fait cette belle littérature, puis ensuite il a fait une publication Corona. Mais tout ça, il n'en parlait pas du tout. Oui, c'était un petit peu ça. Alors, il était très, très suisse-allemand. Mais il parlait très bien français. Et puis ma mère est donc une naville, c'est-à-dire c'est originaire de Genève, mais son père, je ne sais plus si c'est son père ou son grand-père, avait émigré à Zurich et ils se sont connus à Zurich. Elle avait fait une étude de nurse à Zurich. Puis on raconte toujours qu'elle était en service et puis tout d'un coup il y a un lift qui descend et puis il y avait sa bague de fiançailles dedans. Si c'est vrai, je ne sais pas, mais c'est assez amusant. Ouais. Parce que je crois que la bibliothèque a été ouverte, c'est pas le mot, parce que personne ne pouvait y aller, dans les années 50, quelque chose comme ça. Et alors, c'était vraiment sa chose. Il n'en parlait pas. Sauf quand il achetait quelque chose d'un petit peu onéreux, qui plaisait pas à ma mère, alors il y avait un petit peu des disputes à table. Mais autrement, il était charmant. Puis, oh oui, puis de temps en temps, comme je vous dis, alors ma mère s'exposait, c'était ou à table ou bien dans son bureau avec les portes fermées. Mais c'était très très rare, ça, c'était très très rare. Parce qu'ils s'entendaient très bien. Et, il était très secret. Il avait un humour anglais comme c'était pas permis, alors qui plaisait pas à tout le monde. Et puis, mais il avait un grand cœur, et puis il adorait la nature. Alors, c'est pas pour rien que tous ces domaines, il les a rachetés après la guerre, parce que c'était bon marché, et puis ça lui plaisait.
Non, c'est Florence Bodmer, donc je suis la femme de Conrad. Donc j'ai bien connu mon beau-père. J'ai eu l'occasion de vivre dans la famille. On a passé des vacances ensemble. Et moi, j'aimais beaucoup, justement, marcher avec lui. Il avait un petit chien. C'était un basset à poils longs.
Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller avec lui dans sa bibliothèque?
Oui. Il l'a montré qu'à certains amis. C'était vraiment quelque chose de réservé. Effectivement... Il m'avait réservé pour moi aussi une fois l'occasion de visiter ça. J'étais très impressionnée, naturellement. Et quand j'ai fait mon diplôme d'infirmière, j'avais un travail à présenter, travail de fin de diplôme. Et il avait été publié parce qu'il avait été choisi. Et je lui avais offert en cadeau cette publication. Et il a été tellement gentil, il a dit « Ah ben je vais la mettre à la bibliothèque ». J'ai trouvé ça extraordinaire parce que naturellement ça n'avait aucune valeur. Mais c'était magnifique qu'il ait eu l'idée de me dire ça. Et je dois dire que j'aimais beaucoup mon beau-père. Ouais.
Charles Mella, j'ai été professeur à l'Université de Genève en littérature française médiévale et j'ai été ensuite président de la Fondation Martin Bodmer à partir de 1994 et directeur de cette fondation à partir de 2004 jusqu'à janvier 2014. Si vous voulez, le problème de la collection de Martin Bodmer, c'est essentiellement de comprendre ce qu'il a voulu faire dès le départ. Disons, il a été formé dans l'esprit de Zurich, dont venait son ancêtre Johann Jakob Bodmer, qui avait reçu Goethe, et l'esprit de Zurich et de Weimar. C'est les deux choses qui l'ont profondément marqué. Et les deux grandes références de Martin Bodmer, c'était Shakespeare d'un côté et Goethe de l'autre. Le, le premier livre qu'il a acquis avec ses propres deniers, et alors, sauf sans faire crédit par le libraire, c'était La Tempête de Shakespeare, illustré par Dulac. Et sa mère, pour son anniversaire, lui avait offert une belle édition bibliophile de Goethe, du Faust. Bon. Ça, c'est le premier point. Il a été, dans l'esprit de Goethe, il a été, on peut dire, marqué par la notion que reprendra aussi Hermann Hesse de la littérature universelle, la Weltliteratur. C'est important parce que la collection de Martin Bodmer a ceci de particulier d'être l'œuvre d'un homme durant sa vie. Et on a là en même temps le témoignage d'une époque, d'une mentalité, de choix qui ont été faits. Donc ça a une valeur historique considérable, indépendamment de la valeur intrinsèque des pièces qui ont été réunies. Donc Martin Bodmer, dans l'esprit de la Weltliteratur, il avait la volonté de rassembler tout ce qui faisait ce qu'on appelait le génie. C'est-à-dire en allemand, Genius, ça veut dire l'esprit créateur, l'esprit de création de l'homme. À travers les siècles, à travers toutes les civilisations, à travers, on peut dire ici, tous les témoignages qui en ont subsisté. Et son idée était donc de se répartir entre à la fois une synthèse à partir de spécimens qui seraient au fond représentatifs d'un ensemble, et d'autre part une encyclopédie. Il est parti autour de 5 piliers au point de départ, bon, qui étaient Homère, la Bible, Dante, Shakespeare et Goethe. Mais évidemment, 5 auteurs, ce n'était pas suffisant. Et il a donc réparti 4 grands domaines qui étaient Marthe, le pouvoir, donc tout ce qui relève de l'histoire, du droit, de la politique, de la société. Il y avait Glaube, la foi, donc toute l'histoire des religions, et à travers la diversité des religions étaient réunies par les témoignages importants au sein de sa collection. Wissen, le savoir. Donc là, la pensée, la philosophie, et également les sciences. C'est une bibliothèque extrêmement importante du point de vue des sciences. Et enfin, Kunst. Donc c'était à la fois l'art et la poésie. Donc il avait ces 4 grandes directions. Et ce qui lui paraissait important, c'est les documents. Moi, je vais essayer de réunir les documents originaux.
Cette notion de document est très importante chez Martin Bodmer.
Oui, c'est très important. Et c'est ce qui fait que sa bibliothèque, et dès le début, il l'a pensée comme telle, c'était un musée. C'est pas une bibliothèque seulement de consultation, certainement pas. C'est aussi un lieu de recherche, indéniablement, mais c'était quand même quelque chose qui était prévu pour pouvoir être partagé.
Descendons dans la caverne.
Exactement, c'est la caverne du savoir, c'est une sorte de crypte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque de Martin Bodmer, existait déjà un embryon de musée, et qu'entre les deux bâtiments existait un couloir, une galerie souterraine qui accueillait certaines pièces exceptionnelles. C'est effectivement une sorte d'antre, de grotte qui accueille le visiteur, et là on passe sans transition vers une atmosphère de pénombre qui est habillée de bois précieux, d'un parquet précieux, d'essence rares et de stuc ainsi que de métal simplement brossé qui compose donc les murs, les parois du musée ainsi que les vitrines. Alors vous êtes accueillis ici dans le hall d'entrée du musée par un très impressionnant fossile, un ichthyosaure, donc l'ancêtre des actuels dauphins. C'était la volonté de montrer, par rapport aux 5000 années d'histoire de l'écriture, les millions d'années de l'écriture de Dieu, donc le doigt de Dieu, la création, dans la pierre, ici matérialisée donc par ces traces fossiles.
Nicolas du Cimetière, vice-directeur de la Fondation Martin Bodmer et conservateur de la bibliothèque.
Et puis vous voyez ici donc celui qui est un petit peu notre génie tutélaire, c'est le général scribe Sobekhotep, qui présente un personnage qui avait réussi à faire l'alliance parfaite de la plume et de l'épée. Martin Bonnemère avait eu l'idée, qui était tout à fait pertinente, d'associer, en plus des documents écrits traditionnels, donc qui sont sur des supports variés, l'argile, le papyrus, le parchemin, des documents archéologiques qui étaient eux aussi traces de l'écriture. Très beau symbole.
On peut entrer avec vous dans le musée. Alors, pouvez-vous nous décrire l'arrivée ici ?
Alors, en fait, le parcours de l'exposition permanente est à la fois chronologique et thématique. Il envisage de retracer l'histoire de l'humanité pensante, l'histoire intellectuelle de l'homme, depuis les origines de l'écriture jusqu'aux plus modernes écoles de littérature. Et c'est pour ça que nous commençons avec les civilisations qui ont vu la naissance de l'écriture, à savoir les civilisations du bassin mésopotamien et l'Égypte pharaonique. Ce qui est intéressant d'entrée de jeu, c'est de constater dans nos premières vitrines comment Martin Bonnemère a sélectionné ses textes de manière à ne prendre que la substantifique moelle, c'est-à-dire vraiment les textes qui ont réussi à transcender leur époque et leur culture d'origine pour devenir véritablement des repères pour l'humanité tout entière.
Juste un instant, on est ici face à ces quatre portraits de personnages fondamentaux. On a aussi Alexandre le Grand qui est ici. Alexandre le Grand, dont le précepteur était Aristote. Bon, il y a la bibliothèque d'Alexandrie. Martin Bonnemère s'inscrivait aussi dans cette tradition.
Disons que là, vous voyez certains des personnages bonnemériens par excellence, parce qu'effectivement, ils ont, ce qu'aimait beaucoup Martin Bonnemère, une complexité. Donc, ils sont présents ici à plusieurs titres. Vous avez la figure d'Homère, parce qu'effectivement, c'est un des piliers de la collection, un des grands cinq piliers. Vous avez César présent parce qu'il intéresse autant les belles lettres que la sphère politique. Et Alexandre est sans doute le plus complexe de tous. Donc avec une représentation d'Alexandre le Grand en Alexandre Hélios, une version divinisée et idéalisée, donc avec une très belle tête en marbre datant du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et ce personnage intéressait Martin Bonnemère parce qu'il était effectivement à la fois le grand conquérant que l'on connaît, le personnage historique, mais également un personnage historique qui a réussi à créer sa propre légende, à transcender son époque une fois de plus, et que l'on retrouve en tant que personnage d'épopée. Et on va le retrouver, et ça c'est encore plus intéressant, autant en Occident, et là il va nourrir les romans médiévaux que l'on connaît, et également comme personnage de bon nombre d'épopées poétiques persanes, à l'autre bout effectivement de ce qui était son empire ou son influence, disons, culturelle. Donc c'est vraiment un personnage complexe à plusieurs niveaux, tel que les aimait Martin Bonnemère et tel qu'on les retrouve dans les ouvrages de sa collection. Un élément sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est ce très bel exemple d'exercice scolaire, très émouvant. Nous sommes dans l'Égypte chrétienne du 4e, 5e siècle. Le support, c'est une plaquette de bois qui a été enduite d'une couche blanchâtre permettant d'accueillir l'écriture. Et nous avons affaire ici à un jeune élève, peut-être de 7 ou 8 ans, qui est en train, sous la dictée probablement, de recopier à 5 reprises la même phrase en grec. On voit le caractère hésitant, maladroit de ces lignes qui ont un petit peu des vaguelettes. Hein. Effectivement, les caractères sont parfois tracés avec difficulté. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette phrase, 5 fois répétée, cette sentence, nous la présentons régulièrement aux enseignants qui viennent nous rendre visite avec leur classe. Et elle explique, il n'y a pas de plus belle chose que de bien connaître ces lettres. Il y a quand même un sentiment d'intemporalité dans ce message pédagogique qui est encore celui aujourd'hui dispensé.
Regardez bien les vitrines. Oui, allez regarder un petit moment avant que je continue. Alors, non, restez par là parce que vous allez trop loin.
On meurt.
Oui, c'est des bus qui datent de l'Antiquité. Alors. Continue. Troisième vitrine. Qu'est-ce que vous pouvez observer?
Alors, du côté de l'air gréco-latine, dont nous sommes les héritiers spirituels et intellectuels directs. Voici une présentation de quelques-uns des grands noms de la philosophie et de la rhétorique. Philosophie tout d'abord avec les œuvres de Platon ou d'Aristote en éditions originales qui paraissent la plupart du temps vers la fin du XVe siècle. La Bible de Gutenberg est imprimée en 1454 et dans le demi-siècle qui va suivre, c'est-à-dire la seconde moitié du XVe siècle, vont voir le jour un certain nombre d'ouvrages provenant de l'Antiquité gréco-latine. Et ces ouvrages nés dans la seconde moitié du XVe siècle sont appelés par convention incunables, incunabulum, dans le berceau de l'art typographique. Alors vous avez devant vos yeux, par exemple, la très rare édition princeps ou édition originale des œuvres d'Aristote, une entreprise éditoriale considérable qui avait été menée par l'éditeur vénitien Aldemanus entre 1495 et 1498. Et vous voyez donc ici se manifester pour la première fois en grec, dans une police qu'il a fallu réaliser, graver et fondre pour l'occasion, les textes d'Aristote qui jusqu'à présent étaient éparpillés. Et Aldemanus a consacré beaucoup d'argent dans son travail préliminaire à écumer toute l'Europe et le bassin méditerranéen pour récupérer et faire venir à Venise les manuscrits, les quelques rares manuscrits que l'on connaissait encore de ces textes. Alors par exemple, pour l'économie, il lui a fallu retarder l'apparition du dernier volume parce qu'il n'arrivait pas à trouver de manuscrit de l'économie d'Aristote. Et donc vous avez ici une manifestation en plusieurs volumes d'une des grandes entreprises éditoriales et philologiques de la Renaissance italienne. À côté, cette fois-ci provenant d'Allemagne, il s'agit de l'édition princeps du De Officiis de Cicéron, imprimée à Mayence, le berceau de l'art typographique, en 1465. Et figurez-vous que ce Cicéron, eh bien, c'est le premier ouvrage laïque de propos effectivement non religieux à voir le jour. Alors on constate que cet ouvrage a des ressemblances très marquées avec ce qu'on attendrait d'un manuscrit médiéval. Vous voyez par exemple que ces lettrines ont été en fait réalisées en rouge et en bleu. Ce sont en fait des interventions d'un enlumineur qui a peint les espaces, laissés en blanc effectivement pour ce faire. Vous voyez dans cette édition de Platon, cette édition latine de Platon, la première édition de ce philosophe, l'imprimeur a laissé au début du texte un cum genus, hein, c'était l'incipit, et le C du mot cum a été placé en tout petit dans un grand rectangle de papier blanc. Et bien c'était justement pour permettre, si le possesseur du livre le souhaitait, l'intervention d'un enlumineur qui allait donc remplir l'espace avec une grande initiale sur fond doré ou sur fond bleu ou rouge. Et ce qui est intéressant donc avec ce Cicéron, pour en revenir à celui-ci, c'est que vous voyez donc l'intervention de l'enlumineur et vous voyez l'intervention du lecteur. Car toutes les notes en écriture microscopique que vous voyez dans les marges, ce sont des interventions d'un lecteur de l'époque qui a donc apporté son commentaire, sa glose à cet ouvrage absolument fondamental pour l'art rhétorique. L'apparition du livre imprimé n'a pas tué le manuscrit. Rappelez-vous dans Notre-Dame de Paris, le « ceci tuera cela ». Oui, certes, mais ça ne s'est pas passé de manière aussi brutale. Et la période de transition a été étalée sur des décennies et des décennies jusqu'à ce que le manuscrit, en fait, ne disparaisse pas, mais soit renvoyé à des pratiques élitaires dans le but de les offrir à de grands personnages, notamment de la part d'auteurs qui voulaient faire un exemplaire vraiment unique. En revanche, effectivement, les premiers livres imprimés ont, eux, beaucoup pris chez les manuscrits qui leur servaient en fait de référence et de modèle. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que ces ouvrages étaient chers à l'achat. Mais quand on voit l'investissement qu'il avait nécessité, l'achat des manuscrits d'Aristote, ensuite le salaire versé à des philologues grecs, d'origine souvent byzantine, des byzantins exilés, pour établir le texte, les corrections, etc. Ensuite, un artiste pour graver la police, ensuite la fondre. Enfin bref, il y avait vraiment un investissement tel que même le prix relativement cher des livres ne permit pas à Aldemanus de vivre avec aisance, et il a fini en fait presque ruiné à la fin de sa vie.
Et ces livres-là ont été réunis par Martin Bodmer.
Alors, ces ouvrages ont été réunis par Martin Bodmer, dont l'ambition était toujours de remonter au plus près de l'acte fondateur, de l'étincelle de la création. Et il est certain que, bon, malheureusement, nous ne possédons pas d'autographes de Cicéron, d'Aristote ou de Platon, mais le but était de pouvoir rechercher la manifestation la plus ancienne de ces textes. Alors, ça passe, quand on en a l'opportunité, évidemment, par des papyries. Et là, c'est le cas, par exemple, avec Ménandre, avec certains fragments que nous avons d'autres auteurs antiques, païens. Et puis, dans d'autres cas, c'est le manuscrit médiéval. Alors, des manuscrits soit réalisés dans le Moyen-Âge occidental des 13e, 14e siècles, soit dans l'Italie de la Renaissance au 15e, et là, nous en avons deux beaux exemplaires derrière nous, soit, effectivement, par le biais de la première manifestation imprimée. Bref, tout ça forme une sorte de chaîne intellectuelle dont les différentes étapes sont, la plupart du temps, donc le manuscrit médiéval, l'incunable du 15e siècle, et puis les éditions ultérieures, qui sont souvent augmentées de commentaires réalisés par les meilleurs érudits de leur époque.
Charles Mellat.
Par exemple, une journée de Martin Bodmer. Appel téléphonique vers 10h ou 10h30. Il apparaît en fin de matinée. Il prend connaissance du suivi en apportant différentes choses à faire. En passant par la salle de lecture, il salue les collaborateurs avant de se rendre parfois au fichier où il prend des notes. Ensuite, il parcourt seul ses collections, revient, dit encore quelques mots ou fait quelques observations. Il remonte chez lui pour midi et demi. L'après-midi, il repasse souvent entre 15h30 et 16h30. Tel était le rythme de Martin Bodmer entre ses obligations, les vacances avec la famille et quelques voyages. C'était avant tout un solitaire qui tenait à l'ordre, la simplicité et à la qualité. C'est ce que me disait Odile Bongard, celle qui était sa collaboratrice pendant 30 ans, et qui, c'est à elle que je dois, au fond, ma compréhension de la collection de Martin Bodmer. Et Odile Bongard, qui est une admirable cavalière, d'ailleurs, elle a été Perron d'Argent, elle allait dans les Franches Montagnes, enfin non, c'est une personne de haute en couleur, elle, c'est la gardienne du temple, si vous voulez. Et elle a eu, au fond, fondamentalement, à l'esprit, le souci qui était pour elle de préserver ce qui avait été le caractère essentiel de l'œuvre de Martin Bodmer. C'est elle qui disait, d'ailleurs, qui m'a dit, ce n'est pas seulement une bibliothèque pour Martin Bodmer lui-même, c'était aussi un musée. Il y avait des expositions qui devaient montrer une vue d'ensemble. Il a écrit un testament, un livre de 300 pages dont personne ne parle, Corus Mysticus, il faut le retrouver, alors ça n'est toujours pas arrivé. Il faut poursuivre les publications. Donc, c'était une bataille pour maintenir l'esprit et le caractère unique de cette œuvre. Et c'est elle qui me disait, mais vous devez vous rendre compte que cette collection a une âme. C'est vraiment une œuvre qu'il a bâtie.
Alors là, ça sent des fleurons de la Fondation Martin Bodmer. Oui, un des fleurons, un des points, disons, qui font que la Fondation Bodmer est aussi connue mondialement pour cette raison.
Madame, les choses alors, c'est des vrais ou pas?
Oui, c'est tout des vrais, bien
et
sûr.
De l'époque
Oui, tout à fait, hein, qui date du Moyen-Âge,
ils sont hyper
qui
date,
ils sont extrêmement vieux, oui. Alors, ici, je vous invite à venir ici parce que ça vaut quand même la peine de voir cet ouvrage qui est particulièrement important. Je vous laisse me regarder, c'est la Bible de Gutenberg. Oh.
La Bible de Gutenberg. Alors, vous la... qui est Gutenberg?
L'imprimeur. Oui, qui a inventé l'imprimante.
Exactement. Donc, Martin Bodmer a eu la chance de pouvoir acquérir une des Bibles complètes dans le monde. Autant vous dire que le prix est particulièrement élevé, d'accord? Et c'était extrêmement difficile à l'acquérir. Donc, vous avez de la chance de le voir ici. C'est le premier livre imprimé, la Bible. Vous décrochez un peu? C'est intéressant quand même, non? Restez vers la Bible parce qu'il est important. Un des premiers livres imprimés, en fait, c'est le premier livre imprimé, c'est la Bible de Gutenberg. D'accord? Oui. Donc, on imprime sur quoi? C'était des... Oui. Et ben voilà, c'est l'apparition du papier aussi. On apporte de Chine le papier. Donc, on n'en est plus au parchemin.
Ce qui me revient, c'est qu'il avait, il lisait très bien et il avait une très belle voix. Et tous les Noëls, 24 au soir, il lisait la Bible. Et c'était, il le faisait d'une manière très, très émotionnante. C'était, ça, c'était, disait un souvenir, ça, c'est toute sa vie, enfin jusqu'à sa mort, il a fait ça. Et puis c'était un Allemand, donc c'était, ça sonnait presque mieux. Qu'en français. Mais donc la Bible de Gutenberg, vous savez qu'il y a l'original et puis il y a un double. Et alors c'est le double qu'on avait le droit de regarder de temps en temps. Mais l'original, on ne le voyait jamais.
Je pense que pour nous, la pièce maîtresse, celle dont on parlait toujours dans la famille, c'est la fameuse Bible de Gutenberg. Mais déjà, c'était le début de l'imprimerie, donc je pense que ça marquait quelque chose de très important dans l'histoire de l'écriture. Et la fierté qu'on avait aussi vis-à-vis de l'extérieur, d'avoir la Bible dans la famille, c'est vrai que c'était une grande fierté. Je pense que c'était, oui, effectivement l'œuvre dont on parlait le plus.
Est-ce que vous l'avez vue avec votre grand-père?
Oui, je l'ai vue avec mon grand-père.
Ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons ici donc mis en position d'honneur, bien entendu, dans le parcours, l'une des trois seules Bibles de Gutenberg présentées au monde, en permanence et au public. Alors évidemment, il en subsiste à peu près 80, mais la plupart sont conservées dans des réserves. Certaines ont été imprimées sur papier, c'est le cas de la nôtre, et puis de très rares exemplaires ont été imprimés sur vélin, donc sur parchemin, mais un parchemin très fin, qui permettait ce travail pour les exemplaires de luxe. L'intérêt de notre exemplaire, c'est aussi que nous connaissons parfaitement son parcours. Et après être resté pendant plusieurs siècles en Allemagne, dans un monastère non loin de Mayence, il a été acheté par un grand collectionneur, un grand aristocrate russe au début du 19e, qui l'a ramené dans son pays. Et puis ses descendants, une centaine d'années plus tard, à la fin du 19e siècle, ont décidé d'en faire don à la bibliothèque impériale au palais de Tsarskoye Selo. À partir de là, révolution bolchevique de 1917-1918, et les ouvrages sont mis dans des caisses en attendant la fin des troubles. On les oublie comme pas mal d'objets dans ce tumulte constant de la Russie dans les années en cause. Et on finit par les retrouver et reprendre, disons, en considération leur valeur lorsque la Russie va avoir besoin, l'Union soviétique, de ressources financières. Et donc, devant l'échec de la politique de la NEP, Staline va être contraint de monétiser un certain nombre des biens tsaristes saisis. Et bien sûr, les livres vont faire partie de cette grande monétisation. Et c'est donc dans le cours des années 20, Martin Bodmer alors à la petite trentaine, et il va être mis devant des choix cornéliens. Par exemple, il va voir proposer à la vente, dans cette même vente à Londres, le Codex Sinaiticus, qui est un des codex bibliques provenant du monastère de Sainte-Catherine, absolument mythique. Et en même temps, il y a cette Bible. Alors là, ça lui pose quand même un problème de conscience. Il se dit, bon, le Codex Sinaiticus va sans doute s'envoler. Moi, personnellement, je veux me limiter. Je veux mettre un an de mes revenus, effectivement, à disposition pour cette vente. Et il va se concentrer sur cette Bible de Gutenberg et il va l'emporter. C'est sans doute l'une des dernières, si ce n'est la dernière, qui soit encore à l'heure actuelle en main privée.
À propos de la réforme et du rôle que l'invention typographique joue dans la réforme et dans l'histoire politique et religieuse, est-ce que vous pourriez nous montrer
les thèses, les 95 thèses de Luther qui ont été imprimées grâce à la typographie de Gutenberg et qui ont été ensuite placardées sur toutes les portes des églises, lançant le coup d'envoi de la réforme. Est-ce qu'elles sont exposées en ce moment ?
Oui, vous avez parfaitement raison. Le vis-à-vis entre la Bible de Gutenberg et un des très rares exemplaires des survivants des placards de Luther est particulièrement émouvant. Voilà, vous voyez, nous avons fait 10 mètres et nous sommes devant ce document incroyablement rare. Vous voyez que c'est l'antithèse à beaucoup d'égards de la Bible de Gutenberg. Un seul feuillet, c'est écrit en latin, mais cela expose les 95 raisons pour lesquelles Luther ne peut plus être d'accord avec des points de doctrine soutenus par l'Église romaine, et notamment la question, on le sait, des indulgences. Ici, nous avons quelque chose qui relève plus du tract et donc quasiment du papier journal. C'est donc un miracle que ça ait survécu.
Bon, évidemment, c'est assez exceptionnel d'avoir une Bible de Gutenberg. C'est probablement une de celles qui est en meilleur état. C'est la seule en Suisse. Premier livre important imprimé en caractère mobile. Et c'est un livre fondamental. À côté de ça, et les trésors, c'est évidemment les manuscrits. Il y a un nombre impressionnant de manuscrits, de toutes les cultures d'ailleurs, que ce soit des manuscrits grecs, latins, occidentaux, persans, chinois, japonais, enfin il y a de tout vraiment, arabe, c'est vraiment exceptionnel comme collection.
Au risque de heurter la modestie de Jean Bonnat, il faut immédiatement ajouter que sa propre collection est absolument exceptionnelle et qu'il y a des pièces que Martin Bodmer aurait rêvé de posséder lui-même. Il y a plusieurs points communs, donc il était absolument indiqué qu'il fut président du conseil de fondation pendant des années. Martin Bodmer, par exemple, avait appelé de ses voeux qu'il y ait une association internationale de bibliophilie. Jean Bonnat est actuellement le président de l'Association internationale de bibliophilie. La collaboration a pris la forme d'une collection commune, source, aux presses universitaires de France, et dont la règle du jeu, c'était de publier des tandems de livres, un couplage, un livre extrêmement rare de la collection de Jean Bonnat et un livre extrêmement rare de la Fondation Bodmer.
Et moi, je suis collectionneur de livres anciens depuis 60 ans. La collection de livres, elle a une vraie ligne, elle a un vrai but, c'est d'avoir à peu près tout ce qui compte dans la littérature française depuis le début de l'imprimerie, disons jusqu'à Apollinaire ou Céline. Entre le roman de Mélusine et Apollinaire, j'ai pratiquement tout ce qui a passé à la postérité. La collection de Martin Bodmer est beaucoup plus universelle que la mienne. La collection de Martin Bodmer, d'abord, on dit toujours qu'il y a 160 000 pièces. Je pense qu'elles ne sont pas toutes importantes. D'ailleurs, je ne les ai pas comptées. Mais il y en a évidemment beaucoup plus que chez moi, où j'ai que 3 500 ou 3 600 titres. Donc, c'est évidemment pas tout à fait la même chose. Et je dirais que le prédécesseur de Monsieur Berchtold, de Charles Mella, trouvait toujours qu'on aurait dû réunir les deux bibliothèques parce que s'il y a une faiblesse à la Fondation Bodmer, c'est la littérature française où il manque un certain nombre de choses qui sont ici, en effet.
Jacques Quentin, éditeur libraire à Genève, expert bibliophile international.
On lui faisait remarquer, quand il disait que sa collection était fondée sur 5 piliers, on lui disait, mais c'est quand même curieux, quid du génie français ? Il n'y a rien pour représenter la culture française. Alors je crois qu'il s'en tirait par une pirouette en faisant valoir qu'au fond, le génie français est protéiforme et qu'il ne saurait s'incarner sur les épaules d'un seul homme. Ce qui est un peu vrai, en quelque sorte. Comment voulez-vous signifier 5 siècles de culture française sur une seule personne ? Il y en a qui diront Victor Hugo, hélas, comme dirait Gide, ou Racine pour la poésie, ou le génie comique de Molière, ou Montaigne comme philosophe très tôt au XVIe siècle, mais en plus écrivant en français, ce qui ne gâche rien. Enfin, il y a pléthore, disons-le.
Est-ce qu'il y a dans ce désir de collection, est-ce qu'il y a aussi un certain désir de préservation d'un patrimoine ?
Alors, je ne sais pas si c'est un désir de préservation. En tout cas, ça préserve, oui.
Quant à la personnalité, au caractère de Martin Bonnemère, il y a eu un très bel hommage qui a été rendu à sa mémoire par le président du Comité international de la Croix-Rouge. Donc ici, le président du CICR, Marcel Naville, concluait son discours ainsi, en évoquant les messages de sympathie pour la perte de cet homme fin, efficace, incapable d'admettre à l'égard d'autrui une injustice. Il était si respectueux de la personnalité des autres qu'il estimait devoir couvrir d'un voile de réserve et d'humour les contours si purs de la sienne.
Quand il a constitué sa collection, ce que je trouve assez remarquable, c'est que les 150, 160 000 livres ne sont pas tous des manuscrits de haute volée ou des éditions très rares, mais il les a achetés quasiment une par une. Il n'a jamais acheté en bloc, si ce n'est pour un lot d'autographes de la collection Zweig et puis les Shakespeare, parce qu'une vie ne suffit pas pour réunir les éditions in-folio et surtout les éditions un quarto des pièces séparées. Et c'est mon confrère de Philadelphie, Rosenbach, qui avait mis lui-même 50 ans de sa vie pour réunir tout ça. C'est l'œuvre d'une vie, c'est quand même exceptionnel.
C'était Martin Bodmer, le fou des livres, avec, pour la Fondation Martin Bodmer, Jacques Berchtold, Nicolas Ducimetière, Conrad et Florence Bodmer, André Tombet, Laurence Gros, Charles Mella et Jean Bonin, Fanny Jost et ses élèves de l'école Moser, Daniel Palmieri et Jacques Quentin. Demain, l'exploration continue avec Martin Bodmer, un voyage dans l'écriture. Coordination Irène Omelianenko. Attachée d'émission Christine Bernard et Alison Sinard. Prise de son Jean-Marie Porcher. Mixage Stéphane Demont. Un documentaire d'Élise Gruau réalisé par Anna Smuk pour Sur les Docks.